VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 9 juillet 2018. En direct de Washington, Idrissa Seroudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
Kinshasa juge inopportune la visite envisagée par le secrétaire général de l'ONU et le président de la Commission de l'Union africaine.
Normalisation des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée à l'issue d'une rencontre entre leurs deux présidents à Asmara.
Nouvel accord de paix entre les parties belligérantes au Soudan du Sud. Riek Machar de nouveau à la vice-présidence.
En Thaïlande, extraction réussie hier par des plongeurs d'élite de quatre premiers garçons de la grotte inondée.
En Haïti, au moins 4 morts depuis vendredi dans des violences consécutives à l'annonce d'une augmentation des prix des carburants.
Et ne manquez pas notre journal de la Coupe du Monde pour l'instant. L'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde.
Kinshasa dit niette à une délégation de haut niveau des Nations Unies et de l'Union africaine. Selon un conseiller du président congolais Joseph Kabila, la visite du secrétaire général de l'ONU et du président de la Commission de l'Union africaine en République démocratique du Congo est inopportune en cette période préélectorale.
En réponse au souhait du secrétaire général de l'ONU d'effectuer une visite en RDC avec le président de l'UA, nous avons pensé qu'elle était inopportune en ce moment étant donné les urgences au pays et les tractations en cours, a déclaré à l'AFP Kikaya Bin Karoubi, conseiller diplomatique de Joseph Kabila.
Aucune date n'a été annoncée pour l'instant, il n'y a rien de prévu. En prévision d'une visite d'Antonio Guterres en RDC, a déclaré pour sa part à l'AFP Florence Marshall, la porte-parole de la mission de l'ONU en RDC.
Dans une conférence de presse fin janvier, le président Kabila avait critiqué la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, demandant qu'elle quitte le pays au plus tard, en 2020. La MONUSCO, qui compte quelque 17 000 casques bleus pour un budget annuel d'1,153 milliards de dollars, est l'une des plus importante mission de la paix de l'ONU dans le monde.
En Guinée équatoriale, le PDGE au pouvoir a exprimé, je cite, son malaise et sa protestation contre l'ingérence de l'Espagne après que Madrid a déploré le décès d'un opposant en prison. Selon l'AFP, ce parti a dénoncé ce qu'il a appelé dans un communiqué malheureux de Madrid relatif à de fausses morts de deux supposés prisonniers politiques. La controverse diplomatique survient à quelques jours de l'ouverture d'un dialogue national convoqué par le régime Niger en présence de représentants de la communauté internationale. En amont de ce dialogue, le président Teodoro Obiang Nguema a annoncé mercredi une amnistie totale pour les prisonniers politiques et opposants.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé hier une normalisation des relations de son pays avec l'Érythrée à l'issue d'une rencontre avec le président érythréen à Asmara. Rencontre historique destinée à mettre un terme à des années d'hostilité entre les voisins de la Corne de l'Afrique, Bagassi-Coura.
Cette annonce survient après des semaines de rapprochement entre les deux pays qui ont culminé avec des drapeaux éthiopiens flottant au vent et les acclamations de la foule massée le long des rues de la capitale érythréenne pour saluer Abiy Ahmed. Nous nous sommes mis d'accord pour la reprise du trafic aérien et naval pour la circulation des personnes entre nos deux pays et la réouverture des ambassades, a déclaré Abiy Ahmed à l'issue des discussions avec le président Isaias Afewerki. Plus tôt, les deux dirigeants s'étaient déjà mis d'accord pour établir les liaisons téléphoniques internationales entre les deux pays. La télévision officielle de l'Érythrée avait montré les deux dirigeants s'étreignant à l'aéroport. Une scène inimaginable il y a encore quelques mois. Les plus hauts dirigeants des deux pays ne s'étaient pas retrouvés depuis près de 20 ans. Le sommet de dimanche fait suite à l'annonce par M. Abiy le mois dernier de la volonté de l'Éthiopie de céder à l'Érythrée un territoire frontalier disputé, un territoire que l'Éthiopie occupe toujours malgré un jugement d'une commission indépendante internationale soutenue par l'ONU datant de 2002.
Au Soudan du Sud, les leaders des partis en conflit ont conclu un autre accord de paix qui ramènera à la vice-présidence le chef de la rébellion, Riek Machar, et devrait éventuellement mettre fin à la guerre de 5 ans. C'est ce qu'a annoncé le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères à l'issue de pourparlers tenus en Ouganda sous l'égide du président du pays hôte, Yoweri Museveni, et de son homologue soudanais, Omar al-Béchir. Un accord similaire de partage du pouvoir qui avait aussi porté sur le retour de M. Machar à la vice-présidence, avait été également signé en 2015 pour échouer l'année suivante.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Thaïlande, les sauveteurs qui tentent d'évacuer 9 jeunes footballeurs encore pris au piège dans une grotte inondée ont entamé aujourd'hui leur 2e jour de mission évacuation, et ce au lendemain de l'extraction réunie de 4 premiers garçons par des plongeurs d'élite. Mais face à la menace de nouvelles pluies de mousson et à la baisse des niveaux d'oxygène dans la grotte, les autorités ont décidé dimanche de tenter le tout pour le tout, jugeant les conditions idéale.
Au Japon, les secouristes tentent de retrouver des disparus dans des quartiers entièrement recouverts de boue et dans les décombres d'habitations de l'Ouest où ont déjà péri 100 personnes après des pluies torrentielles.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a exhorté hier la Corée du Nord à suivre l'exemple du Vietnam en forgeant une nouvelle relation avec les États-Unis, tout comme l'a fait ce pays plus de 4 décennies après la guerre du Vietnam, et l'engagement militaire américain dans ce pays, le Vietnam. M. Pompeo parlait à Hanoï à l'issue de 2 jours de pourparlers à Pyongyang sur le démantèlement du programme nucléaire nord-coréen. Il a à ce propos minimisé les accusations de Pyongyang qui, qualifiant de regrettables ces pourparlers, a dit que les États-Unis avaient fait des demandes similaires à celles de gangsters en réclamant l'abandon de son programme nucléaire.
En Haïti, l'ambassade des États-Unis a demandé à tous les ressortissants américains de ne pas sortir de chez eux jusqu'à nouvel ordre, alors que se poursuivaient hier les protestations contre l'annonce depuis suspendue par le président Jovenel Moïse d'une hausse importante des prix des carburants. Les protestateurs ont brûlé des pneus dans les rues de Port-au-Prince, la capitale, et à Pétionville, pillé des commerces, mis le feu à des voitures devant des hôtels de luxe et menacé d'incendier le siège du Parlement. Au moins 4 personnes sont mortes depuis vendredi dans les violences selon un décompte de l'AFP.
Au Nicaragua, 14 personnes civiles et membres des forces de l'ordre ont été tuées hier dans le sud-ouest lors d'affrontements entre des forces gouvernementales et des opposants au président Daniel Ortega. Le pays est secoué depuis avril par une vague de contestations pour exiger le départ du président qui a exclu des élections anticipées.
En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan entame aujourd'hui un nouveau mandat de 5 ans avec de vastes pouvoirs sous un nouveau système dénoncé comme autocratique par ses détracteurs. Il y a 2 ans, M. Erdogan avait échappé à un putsch militaire au pouvoir depuis 2003, d'abord comme premier ministre, puis président. M. Erdogan, âgé de 64 ans, a été réélu le 24 juin, dès le premier tour, avec 52,6% des voix, loin devant ses concurrents.
Et puis toujours en Turquie, ce drame d'hier soir, 24 personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans le déraillement d'un train de passagers dans la région de Terikdag, dans le nord-ouest du pays. De nouveau, Bagassi Koura.
Le train transportant 360 passagers provenait d'une ville à la frontière bulgare et se rendait à Istanbul quand 6 de ces voitures ont déraillé à proximité du village de Sarilar. L'accident s'est produit en raison de mauvaises conditions climatiques, a expliqué le gouverneur de la région, Mehmet Ceylan. Des pluies récentes ont rendu les terrains des environs boués. Le sol pourrait s'être dérobé sous les rails. Plus de 100 ambulances ont été dépêchées sur les lieux, selon un responsable du ministère de la Santé. L'armée turque a de son côté indiqué dans un communiqué avoir envoyé plusieurs hélicoptères sur le site de l'accident. Les images télévisées montraient plusieurs voitures couchées sur le côté et des victimes amenées sur des brancards.
VOA Afrique, édition du journal du lundi 9 juillet 2018. Ce sera tout pour le journal.
À présent, le journal de la Coupe du Monde avec Nicolas Pinot.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Veillée d'armes en Russie avant la première demi-finale demain entre la France et la Belgique. La France, championne du monde 98, a sur le papier plus d'expérience que la Belgique, qui n'a plus atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde depuis 1986. L'attaquant des Bleus, Olivier Giroud, s'attend quand même à un match difficile contre les Belges.
Il y a une grosse rivalité entre la France et la Belgique, c'est une espèce de derby quand même. Et encore une fois, ils ont 9 joueurs qui évoluent en Première Ligue, donc c'est sûr que ce match aura... un petit accent anglais, on connaît très bien leur qualité et bien sûr que pour nous, que ce soit Hugo, moi, Engie qui évolue aussi à Chelsea et Polo, c'est un match particulier.
Olivier Giroud, attaquant français. En face, les Diables Rouges sont en confiance après l'élimination du favori brésilien en quart de finale. Écoutons Nasser Chadli qui s'exprimait en conférence de presse.
Je pense que quand tu bats le Brésil, tu dois plus craindre personne. Parce que si tu crains, tu peux pas jouer ton jeu. Tu dois respecter tout le monde. Et ça, c'est important en tant que joueur de foot. Mais si tu joues avec la crainte, tu peux pas jouer à 100%.
Le joueur belge, Nasser Chadli. Et cette première demi-finale France-Belgique a aussi inspiré Jules Valentin Gouet pour son coup de sifflet.
Bonjour. Le duel Europe-Amérique du Sud des quarts de finale a tourné à l'avantage de l'Europe qui constituera toute seule le carré d'as de la Coupe du Monde 2018 en territoire eurasiatique. Les premiers de cordée sont la Belgique et la France dans un derby fratricide qui oppose logiquement les équipes les plus impressionnantes de cette fin de compétition, désormais en phase terminale. La Belgique aligne la meilleure attaque du tournoi. La France, elle, présente les garanties défensives les plus évidentes, ce qui constitue un atout fondamental dans les matchs serrés et équilibrés où il ne fait pas bon encaisser le premier but. Par ailleurs, lors de la dernière rencontre face à l'Uruguay, la sélection tricolore a encore élevé son niveau de jeu, faisant montre d'une maîtrise retrouvée, d'une sérénité et d'une patience qui caractérise déjà les équipes qui veulent aller jusqu'au bout. C'est incontestable, la France, au regard de son tableau de chasse, a déjà revêtu le costume du favori de la dernière ligne droite. Et c'est là où le bas blesse, car la Coupe du Monde, au cours de sa longue histoire, a rarement souri aux favoris. Les Brésil de 38, 50, 82 et 86, la Hongrie de Puskás en 54, les Pays-Bas de Johan Cruyff, dominateurs à leur époque, n'ont jamais gagné ce trophée. Alors que penser de cette édition russe véritablement iconoclaste qui a détruit toutes les idoles de Messi à Neymar en passant par Ronaldo, mais aussi tous ces monuments de l'Allemagne au Brésil sans oublier l'Espagne, le Portugal, l'Argentine et l'Uruguay, la France devra donc se méfier d'une Belgique revancharde à souhait, sans aucune pression, pétrie de talent offensif, mais qui a aussi démontré contre le Brésil une équipe tactiquement proche du jeu français, ses capacités tactiques, son efficacité, avant de prouver en deuxième mi-temps qu'elle pouvait aussi gérer ses temps faibles. La clé de la rencontre se trouve donc, une fois de plus, dans le scénario du match. Alors patience, à bientôt.
Merci Jules, et à noter que Fernando Hierro a quitté ses fonctions de sélectionneur de la Roja. Le directeur sportif de la Fédération espagnole avant le Mondial a également refusé de retrouver cette fonction après l'élimination des Espagnols en 8e de finale de ce Mondial par la Russie. Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde. Prochain point ce soir sur VOA Afrique. En attendant, retrouvez les dernières infos sur notre site internet voaafrique.com et notre page Facebook.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux devant aboutir à la décrispation de la crise sociale sont bloquées. Les deux parties durcissent leur position et les perdants dans ce bras de fer sont les élèves qui doivent passer le baccalauréat édition 2018. Pour casser la grève, le gouvernement menace d'appliquer une loi portant sur la restriction du droit de grève au Tchad. Réaction des différents protagonistes dans ce reportage d'André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Après plusieurs tentatives de négociation avec les responsables de la plateforme syndicale revendicative sans compromis, le gouvernement ferme la porte au dialogue. Il accuse en même temps ses responsables d'être manipulés par les hommes politiques sans donner plus de détails. Doulé nous dit Alix Naimbaï est le porte-parole du gouvernement.
Cette manière d'agir, peu orthodoxe, diligentée par certains responsables syndicaux, bien connus et instrumentalisés, ne vise qu'à saper le bon fonctionnement de l'État et à remettre en cause la trêve sociale issue de l'accord du 14 mars 2018.
Réplique du porte-parole de la plateforme syndicale revendicative Barka Michel. Pour lui, c'est le contraire.
Le blocage des négociations était provoqué par le gouvernement lui-même. Les membres du gouvernement sont manipulés par des hommes politiques de la majorité présidentielle qui empêchent au ministre de discuter avec nous. C'est ceux-là qui font les jeux, il faut le dire.
La persistance de cette grève dans le secteur public est inadmissible, estime le gouvernement, qui menace d'appliquer la loi 32 réglementant le droit de grève au Tchad. Laquelle loi stipule en son article 15 que les journaux prestés pour cause de grève ne donnent pas lieu à une rémunération. Les salaires des journaux non prestés sont à la charge des syndicats initiateurs du mouvement de grève. Fin de citation. La réaction du porte-parole de la plateforme syndicale revendicative Barka Michel ne se fait pas attendre.
Cette loi est en relecture et nous avons envoyé une requête au Bureau international du travail qui demande au gouvernement de revoir les parties querellées. Pour nous, le gouvernement n'a pas de proposition. Il faut menacer. C'est ça ce que ça veut dire.
C'est dans cette condition que le gouvernement continue d'organiser les examens et concours de fin d'année. Il a réussi à diviser le syndicat des enseignants du Tchad. Coup de gueule de quelques enseignants qui résistent à cette manipulation.
Nous sommes parents, mais il faut que les programmes soient quand même finis pour que nos enfants aient dignement leur diplôme.
Les camarades syndiqués qui sont sur le terrain, je dirais que c'était des traîtres.
C'est anormal ce que les autres ont fait. On dit solidarité, mais il n'y a pas la solidarité chez nous.
Rappelons que lors de la première grève de la plateforme syndicale en janvier dernier, le gouvernement avait instauré un système de listes journalières pour contraindre les grévistes à aller au travail. Chose que le cénéaste Haroun Mohamed Saleh, alors ministre de la Culture, avait refusé et cela aurait précipité son départ du gouvernement. André Kodmadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Mali, la campagne pour la présidentielle a commencé. Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant et candidat à sa propre succession, était dans le plus grand stade du Mali, alors que son challenger de 2013 avait investi le boulevard de l'indépendance à Bamako. D'autres candidats comme Modibo Sidibé, Ousseini Amiong Gindo ou encore l'unique femme dans la course ont donné des conférences de presse ou effectué des visites de prise de contact à l'intérieur de la capitale. Compte rendu de notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
C'est dans les quartiers populaires de Lafiabougou que l'unique femme candidate a son QG de campagne. Il n'y avait pas assez de monde le samedi 7 juillet. La candidate a dévoilé son programme de campagne qui sera lancé ce lundi 9 juillet à Kidal. Kanté Djenebandjaï, candidate.
La campagne va se passer très bien dans la transparence. Nous, les femmes, on a beaucoup compris que les femmes peuvent mieux gérer le Mali plus que les hommes. Le choix de Kidal, parce que ce sont nos femmes qui sont là-bas, qui sont victimes et qui sont là-bas, qui connaissent la réalité de là-bas. Je vais être avec eux, dormir avec eux, causer avec eux, pour qu'ils puissent être avec nous, femmes du Sud, pour conseiller leur mari, pour que la paix puisse revenir au Mali.
L'ancien rebelle, ancien député de Bourem, Mohamed Ibrahim Ag Assalé, apporte son soutien à Ousseini Amiong Gindo.
Nous sommes arrivés par conviction à la conclusion que le candidat Ousseini Amiong Gindo de la CODEM est membre de la Convention des bâtisseurs et celui qui pourra rassembler les Maliens, que je déclare au nom du mouvement mouvement républicain pour la paix et l'unité et à mon nom propre notre soutien à la candidature de M. Ousseyn Amion Guindo pour accéder à la magistrature suprême de notre pays, le Mali, scrutin du 29 juillet 2010.
Les candidats de la CODEM qui a eu le soutien de l'ancien maire de Gao apprécie à sa juste valeur la décision de Ibrahim Ag Assalé, Ousseyn Amion Guindo.
Ibrahim que j'ai connu à l'Assemblée nationale en tant que député, Ibrahim qui est signataire des accords de Ouagadougou, donc c'est ce Ibrahim aujourd'hui qui pense que c'est nous qui pouvons rassembler les Maliens. Je vous dis merci. Merci pour la confiance, parce que notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, il faut rétablir la confiance entre nos populations et nos gouvernants.
Au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, la mobilisation continue autour du retrait des cartes d'électeurs, car le taux de retrait national est de 14%.
Véritablement que les gens aillent retirer les cartes d'électeurs biométriques. Si quelqu'un veut voter, il doit avoir sa carte d'électeur. C'est la raison pour laquelle les OEC iront jusqu'au samedi 28 juillet pour dire aux gens d'aller retirer les cartes d'électeurs.
Donner l'information à cette base pour que nous puissions avoir des élections transparentes et j'en suis sûr que vraiment cette tâche sera exécuté à souhait.
Afin d'accentuer cette sensibilisation, les femmes ont été sollicitées. Traoré Oumoutouré, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille.
Les femmes doivent sortir, aller chercher leur carte d'électeur et aller voter. C'est la plus grande chance pour les femmes d'aller prendre leur carte d'électeur et d'exercer leur citoyenneté. Elles ne peuvent pas dire qu'elles ont des conditions mauvaises, qu'elles ont tel ou tel problème sans avoir la carte. Et je pense que c'est l'occasion pour les femmes du Mali d'être ensemble en groupe et d'aller prendre leur carte d'électeur et voir les programmes qui marchent, les programmes qui parlent mieux, qui veulent renverser les tendances pour elles.
Sur le terrain, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta était dans le plus grand stade du Mali, alors que son challenger de 2013, Soumaïla Cissé, avait investi le boulevard de l'indépendance. Tous les deux ont parlé de programme et sensibilisé leurs partisans afin qu'ils sortent massivement le 29 juillet prochain. Bamako, Kassine Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Les députés béninois disent oui au principe de la révision constitutionnelle. Le peuple béninois, à travers un référendum, est donc appelé à se prononcer sur cette révision de la loi fondamentale du pays qui pourrait aboutir à une plus grande représentativité des femmes au Parlement. La peine de mort devrait aussi être supprimée si le texte est adopté. Correspondance de Ginette Fleur à Dandé, à Cotonou.
Après l'échec qu'avait connu le processus de révision de la Constitution en avril 2017, un groupe de députés acquis à la cause du gouvernement Talon a introduit au Parlement la proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 90. Elle porte sur quatre points précis, à savoir le couplage des élections, la représentativité des femmes au sein du Parlement, la création de la Cour des comptes et la constitutionnalisation de l'abolition de la peine de mort. Le constitutionnaliste y voit un piège, un désir de tout contrôler.
Nous savons à quel point certains députés sont tenus. Parce que si vous savez que le Parlement est un refuge et qu'on y envoie des gens avec beaucoup d'affaires et qu'il faut lever des immunités, il ne faut pas les lever, etc. Ils sont tenus, ils ne sont pas libres. Et quand bien même on considérait qu'ils sont libres, ils ne sont pas responsables. Parce que à 6 mois de la fin de leur mandat, même s'il y a un principe de continuité, on liquide les affaires courantes. Ce n'est pas à la veille de son départ qu'on pose un problème aussi crucial et fondamental que la révision de la Constitution qui a été refusée.
Pour les pro-révisionnistes, il ne s'agit pas d'un acte isolé qui tient à dépouiller la loi fondamentale de son essence, mais il s'agit d'une volonté de rendre plus vivants certains aspects de la loi fondamentale pour la vitalité de la démocratie béninoise. Jean-Michel Abimbola.
Résolument, nous voulons et nous souhaitons éviter la polémique. Aujourd'hui, dans le souci de la transparence, dans le souci d'économiser pour le pays, dans le souci de mettre les Béninois au travail, il est quand même important de façon objective que ces petits amendements-là soient fait afin que véritablement que notre pays puisse désormais commencer par travailler.
Comme l'exige la procédure du Parlement béninois en de telles circonstances, le dossier a pris par la commission des lois qui a adopté la proposition. Après avoir voté dans un premier temps pour la prise en considération du projet de révision de la Constitution qui leur est soumis par 62 voix pour, 19 contre et une abstention, le vote de l'approbation qui requiert la majorité des 4/5 des députés n'a pu être concluant. Pour le député Arif Haribako, rien que le point relatif à plus de représentativité des femmes aurait pu convaincre ses collègues à approuver cette révision de la Constitution.
Si nous réussissons aujourd'hui à avoir un consensus global au sein de notre hémicycle, en dehors de l'hémicycle, quant à la participation politique des femmes, il s'agit d'une grande avancée pour notre démocratie. Et je ne comprends pas, je ne veux pas aussi accepter que dans cet hémicycle, qu'un député, fils de femme, mari de femme, puisse voter ici contre une telle disposition qui permette la promotion des femmes en termes de participation politique.
Le Front pour le Suisse patriotique, très critique contre les actions du gouvernement, pense que les députés ont tort de penser qu'à la représentativité des femmes au sein du Parlement. Pour eux, toutes les couches de la société méritent qu'on se batte pour leur participation au vote des lois qui engagent le destin de tout le peuple béninois. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Les opérations chirurgicales des EMS Afrique Togo ont pris fin ce week-end au centre hospitalier régional de Thiévié, ville située à une trentaine de kilomètres au nord de Lomé. Sont opérés gratuitement des patients souffrant de fibromes, de lipomes, de cataractes, d'hernies ou encore de goitre, pour ne citer que ces pathologies. Cette mission médico-chirurgicale permet aux médecins togolais de se mettre au service des populations rurales et de sensibiliser ces dernières sur la fréquentation des services sanitaires. Reportage de Kay Lawson, correspondante de VOA Afrique au Togo.
C'est le centre hospitalier de la région maritime qui a été choisi par l'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et de la santé en Afrique, M-Afrique, pour les opérations chirurgicales. Après la phase de consultation qui a permis aux praticiens de consulter plus de 5000 patients dans 50 villages de la région, environ 500 étaient retenus pour la phase chirurgicale. La terrasse devant le bloc opératoire sert de salle d'attente où des patients sont assis ou couchés à même le sol, l'attention focalisée sur la porte du bloc. À la sortie de l'infirmière, ils se lèvent, du moins ceux qui le peuvent, dans l'espoir d'entendre leur vie. Les patients qui sont appelés rejoignent le bloc. Une fois sortis du bloc, c'est le soulagement dans la salle de surveillance post-opératoire. Agnès Ayoavi Koumassi, âgée de 49 ans, vient d'être opérée d'un
goitre.
Il y a environ 6 ou 7 mois, je sentais des nodules dans ma gorge. Après consultation, on me fait savoir que c'est du goitre. Et pour être guéri, il va falloir une intervention chirurgicale. Pour l'opération, en plus des analyses préopératoires, je devrais débourser 140 000 francs CFA, une somme que je ne disposais pas. Donc, quand j'ai eu vent de cette mission, j'ai saisi l'occasion. Me voilà guéri gratuitement. Chaque année, M-Afrique organise ses missions chirurgicales à l'intérieur du pays avec des objectifs précis. Docteur Michel Kodom est le président de M-Afrique Togo.
C'est toute une machine aujourd'hui que M-Afrique a mis en place pour pouvoir donner l'opportunité aussi à ces paysans d'avoir des soins de qualité. Et nous nous félicitons aujourd'hui de pouvoir mobiliser les médecins locaux, des médecins togolais qui ont compris qu'ils peuvent donner de leur temps pour les populations rurales qui ont besoin de nous, qui ont besoin des soins.
L'UT était cette mission qui a offert l'opportunité à Kodjo Abba, cultivateur de son état, de se faire opérer de sa cataracte. Il aurait pu perdre la vue comme il le reconnaît lui-même.
Et ça fait plus d'un an que je souffre de cela et j'ai saisi l'occasion pour quand même se faire opérer. On peut dire que le problème d'argent a conduit que je ne suis pas parti se faire opérer.
Ces interventions chirurgicales servent de cadre de sensibilisation sur la fréquentation des structures sanitaires. À en croire docteur Essena Magbenou, directrice du CHR Thiévié, le taux de fréquentation augmente au lendemain de telle mission.
Aujourd'hui, ce n'est pas la peine de vivre avec une maladie. Il faut se faire consulter, se faire traiter. Et au fil des jours, avec des informations, celui qui n'a pas les moyens aussi trouvera un appui. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, qui peuvent venir à l'hôpital, ils n'ont aucune information sur les hôpitaux. Donc, au cours de ces missions-là, ils se rendent compte que, j'ai eu une connaissance et tout, et ils reviennent souvent. Surtout pour les services de spécialité, là, comme la stomato et l'ophtalmo, ça fait augmenter la fréquentation.
De retour de Thiévié pour VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Darrell Smith. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Georges-Léonard Sagnot pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.